Chapitre 7. Agatha ouvrit la porte du cottage. Elle était épuisée. Le téléphone sonna. Ayant récemment changé de numéro afin d'être sur liste rouge, Agatha décrocha sans crainte. C'était Paul Newton.
« Je pensais bien que vous seriez chez vous. Je viens de regarder les nouvelles à la télévision. Vous allez bien ?»«
Juste un peu fatiguée. » »«
Ça vous dirait qu'on se retrouve pour dîner ? Que vous me racontiez tout ça ?»
Agatha hésita.
« Cette fois-ci, c'est moi qui choisis l'endroit, » trancha-t-elle enfin. « On se retrouve à 19h au Black Bear, à Morton & Marsh. »
« Magnifique, à ce soir. »
Elle venait à peine de raccrocher que ça sonna de nouveau. C'était Charles.
« Coucou, Agatha !» dit-il.
« Au revoir, Charles !»
Et elle fit bruyamment claquer le combiné. Elle venait de décider qu'elle en avait assez d'être traitée avec une telle désinvolture. Peut-être n'était-elle pas charmée par Paul, mais la perspective de passer la soirée avec un homme qu'il admirait était préférable à la compagnie de Charles et au regard cynique qu'il portait trop souvent sur elle. Contrairement à ses habitudes en matière de rendez-vous galants, Agatha arriva au Black Bear vêtue de manière décontractée et à peine maquillée. Paul se leva pour l'embrasser sur la joue.
« Waouh, il est tout de même rudement costaud !» se dit Agatha, en se demandant si elle ne l'avait pas jugé trop durement.
Après qu'ils eurent commandé le même plat, une tourte à la viande avec des frites, Paul questionna Agatha sur le dernier meurtre en date. Elle eut plaisir à en parler à un auditeur aussi attentif. Quand elle eut achevé son récit, Paul se pencha par-dessus la table et lui prit la main.
« C'est un métier dangereux. Avez-vous jamais songé à y renoncer ?»«
Je ne pense pas que je saurais faire quoi que ce soit d'autre, » dit Agatha. « Si ce n'est mon ancien métier, les relations publiques, mais de ce côté-là, j'ai eu ma dose. »
« Vous n'avez jamais eu envie de vous remarier ?»«
Après deux mariages qui n'ont pas marché, l'idée ne m'emballe pas vraiment, » répondit Agatha en dégageant lentement sa main.
Tony reçut un coup de fil de Luc.
« Mon père passe la soirée dehors. »«
Ça ne lui arrive jamais ?»«
Non. Il fréquente votre boss ?»«
Aucune idée, » lança Tony. « Pourquoi ?»«
Oh, comme ça.
Ça vous dirait d'aller voir un film demain ?»
Tony hésita. Il lui plaisait, mais pas à ce point-là.
« Je regrette, mais à cause de ce dernier meurtre, on fait tous des heures sup, » dit-elle. « Je vous appellerai. »
Et moi qui croyais que toutes les femmes rêvaient de se marier, disait Paul. De ne plus avoir de responsabilité, d'avoir un homme aimant pour s'occuper d'elle.
Eh bien, ce n'est qu'un rêve, répondit Agatha non sans ironie. La réalité est tout autre.
Le portable de Paul sonna. Il décrocha, écouta et dit d'une voix impatiente.
Ok, j'arrive.
Il raccrocha.
Il y a un problème avec l'agnolage. Il faut que je parte. Luc est dans tous ses états. Ça vous dit de m'accompagner ?
J'ai encore du sommeil en retard. Allez-y, c'est mon tour de vous inviter.
Agatha le regarda s'éloigner. Son pantalon la serrait à la taille.
Pourquoi me suis-je envoyé toutes ces tourtes à la viande ? Se désolait-elle.
Elle commanda un café. Elle partit dans une de ses rêveries dont elle avait le secret. Elle y était femme de fermier et ça ressemblait plus à un film hollywoodien ou à un roman harlequin qu'à la réalité. Réalité qui s'imposa soudain en la personne de Charles Fraisse.
« Je suis venu voir pourquoi tu étais tellement en rogne, »
dit-il en s'installant en face d'elle. Il fixa l'assiette de Paul.
« Tu avais rendez-vous pour dîner et il est parti avant la fin. »
« C'était Paul Newton. »«
Qui est Paul Newton ?»«
Juste quelqu'un qui veut m'épouser. »«
Pourquoi ?»«
Quelle question insultante !»«
Tes antécédents sentimentaux sont déplorables. »«
Et tu en fais partie. »
Il y eut un petit haussement d'épaule. Charles était comme ses chats, songea Agatha, dispensant son affection quand ça l'arrangeait et entrant et sortant de sa vie comme bon lui semblait. Oui, comme un chat qui va et vient par la chatière.
Alors, de quoi s'agit-il avec ce nouveau meurtre ?
Agatha l'informa des derniers rebondissements. Elle commençait à se détendre. Charles l'écoutait avec attention.
Je plains ce pauvre Simon. Tu ne sembles pas beaucoup l'estimer. Mais il a le chic pour dénicher des choses intéressantes. Penses-tu que Jed Whittle va avouer tous les meurtres pour protéger Mrs. Crosswiz ?
Ça semble plausible.
Mais est-ce que ça pourrait être vrai ?
Je n'en sais rien. Mais comme les policiers sont sous pression, ils ont envie que ce soit le cas. Jed Whittle n'aura pas les moyens de se payer un bon avocat. Et un bon avocat démolirait les arguments de l'accusation pour ce qui est des deux premiers meurtres. Absence totale de preuves. Nul ne s'est jamais donné le mal de lui demander son alibi, pour la bonne et simple raison qu'il n'a jamais été soupçonné.
« Tu n'as pas envie de laisser tomber ?»
demanda Charles.
« Parce qu'à la fin, cette affaire traîne depuis si longtemps que même si Jed n'a pas commis les premiers meurtres, ce n'est pas maintenant que tu vas découvrir quoi que ce soit. »
« C'est tentant. Je pourrais me marier et devenir une bourgeoise oisive. »
« Avec ce Paul Newton ? Il fait quoi dans la vie ?»«
Il est agriculteur. »
« Hein ? Honnêtement, Aggie, tu te vois en femme d'agriculteur. »
« Et pourquoi pas ?» rétorqua Agatha d'un ton bougon.
« Ce n'est pas un toy boy ?»«
Non, il doit avoir mon âge. »«
S'il n'a jamais été marié, tu devrais te méfier. » »«
Il a été marié et il a un fils adulte. »
Et que pense ce fils de sa future belle-mère?
Pour l'amour du ciel, Charles, on ne s'est vu que quelques fois. Son fils a appelé ce soir un problème avec l'agnelage.
Ah, je te vois bien dans les champs par une pluie battante, avec tes bottes toutes crottées. Une vraie fille de la terre.
Ah, la ferme! Je rentre chez moi, je suis fatiguée. La semaine qui s'ensuivit fut particulièrement pénible pour Agatha. Elle eut à s'occuper de deux affaires de divorce, du genre qui l'obligeait à poireauter dans le froid pendant que Phil prenait les photos qui serviraient de preuve. Agatha se sentait toujours un peu salie par ces histoires d'adultère et de divorce. Elle ne cessait de repenser à la confortable ferme de Paul Newton et à la sécurité que procurait le mariage. Il lui envoyait des fleurs et lui téléphonait. Il avait hâte de la revoir, disait-il. Le week-end venu, elle craqua et accepta un autre rendez-vous. Elle lui parla de sa vie et du temps où elle avait été mariée avec James Lacey.
« Alors, je suis le seul homme de votre vie ?» demanda Paul.
« J'ai des amis hommes, comme l'inspecteur Bill Wong ou Charles Fraisse, mais il n'y a rien d'autre entre nous. »«
Charles Fraisse, vous avez dit ? Sir Charles Fraisse ?
Oui, pourquoi ?
Il y avait quelque chose sur lui dans le Times ce matin, je l'ai dans ma serviette. »
Il sortit le journal et alla droit à la rubrique mondaine.
« Voilà, mais vous devez déjà être au courant, bien sûr. »
Agatha lut que Charles était fiancé à une certaine Caroline Featherington. Ça lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Pourquoi ne lui en avait-il rien dit ?«
Vous paraissez surprise, » fit remarquer Paul. « Je savais qu'il comptait la demander en mariage, » mentit Agatha, « mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse si vite. » « J'avais l'intention d'attendre, » mais les fiançailles de votre ami me donnent du courage. »
Il tira de sa poche un petit écrin, le lui tendit.
Qu'en dites-vous, Agatha ?
Elle ouvrit l'écrin. Elle réalisait que les yeux de tous les dîneurs étaient rivés sur elle. Une bague, sertie d'un solitaire, brillait de mille feux sur la table éclairée à la bougie. Tout ce que voyait Agatha, en regardant la bague, était un antidote aux longues années de célibat qui semblaient s'annoncer. Plus de visites de Charles ! Plus de vacances avec ce moins que rien, ce coureur de Charles.
Merci, fit-elle en passant la bague à l'annulaire de la main gauche sous les applaudissements des dîneurs de la table d'à côté.
Paul commanda du champagne.
Et Luc en pense quoi ? S'enquit Agatha.
Je ne lui ai encore rien dit, mais il va être enchanté.
Après une nuit de bruyants ébats, Agatha, à son arrivée à l'agence le lendemain matin, annonça à ses assistants son prochain mariage. Tous vinrent autour d'elle admirer la bague.
« J'ai vu que Charles allait lui aussi se marier ?» dit Tony.
« Ah oui ?» demanda Agatha d'un ton dégagé.
« Tant mieux pour lui !»
Tony scrutait discrètement Agatha. Elle l'avait déjà connue amoureuse et ne retrouvait à présent chez elle ni l'excitation ni l'euphorie qu'elle avait pu observer alors. Plus grave encore, Tony avait reçu tôt ce matin-là un coup de fil de Luc qui lui avait affirmé qu'il ferait tout pour empêcher ce mariage. Devait-elle mettre sa bosse en garde ?
Sans doute pas. Agatha se rendrait compte bien assez tôt de la désapprobation de son futur beau-fils.
Mais au cours des semaines qui suivirent, Agatha ne s'en rendit pas compte. Certes, Luc n'était pas vraiment amical et prenait la porte presque chaque fois qu'elle mettait le pied à la ferme, mais il lui avait tout de même adressé ses félicitations. Agatha, quant à elle, jouait avec enthousiasme son nouveau rôle de fermière, allant jusqu'à prendre des cours de cuisine avec Mrs. Blugsby. Le fait de jouer un rôle l'aidait à s'échapper de la réalité et à se sentir utile et bien dans sa peau. Elle oublia les crimes, oublia aussi que Jed était accusé à tort, selon elle, de les avoir tous trois commis. Aucun appel, aucune visite de Charles.
Un samedi, le téléphone sonna. Luc répondit. Après avoir raccroché, il dit à son père.
C'était la police, papa. Ils pensent avoir retrouvé ton tracteur et veulent que tu te rendes au poste.
J'y vais tout de suite. Vous venez, Agatha?
C'est bon, papa, vas-y. Je m'occupe d'Agatha. Il est temps que j'apprenne à connaître ma future belle-mère.
Bien parlé, le félicita Paul. Je reviens vite.
Après le départ de Paul, Luc dit à Agatha.
J'aimerais vous montrer notre dernier né, le plus joli petit agneau qu'on ait jamais vu.
Très volontiers. Agatha était enchantée que le jeune homme se montre enfin aimable. Elle enfila des bottes en caoutchouc et mit sa veste matelassée. Luc l'amena à travers champs. Il faisait froid et il commençait à y avoir des averses. Agatha finit par se plaindre.
On marche depuis des kilomètres.
C'est une grande ferme. Vous voyez le petit bâtiment en pierre là-bas? C'est là que se trouve l'agneau.
Il n'est pas avec sa mère?
Si.
Il ouvrit grand la porte.
Allez-y!
Agatha scruta l'obscurité et fit volte-face, prise de panique alors qu'on claquait la porte derrière elle.
« Vous jouez à quoi ? » cria-t-elle.
« Vous pouvez rester ici et pourrir lentement, à moins que vous promettiez de rompre vos fiançailles avec mon père !» hurla Luc.
« On est loin de tout ! Vous pourrez gueuler aussi fort que vous voudrez, personne ne vous entendra !»
À son retour, Paul trouva sur la table de la cuisine une note dactylographiée. « Mon cher Paul, désolé, mais je ne peux pas vous épouser. Je vous prie de me pardonner, Agatha. » Paul monta aussitôt dans la chambre de son fils.
« C'est quoi ça ? » cria-t-il en agitant la note. « Que lui est-il arrivé ? La police n'a jamais appelé. C'était une mauvaise blague. Où est-elle ? »
« Elle a dit qu'elle en avait marre de tout ça et qu'elle n'avait pas le courage de te parler. De toute façon, ça n'aurait jamais marché. »
Simon avait réussi à convaincre Tony d'aller boire un verre avec lui. Comme Charles, Tony plaignait Simon et trouvait qu'Agatha aurait pu lui confier de meilleurs dossiers après qu'il avait découvert le cadavre au fond de l'étang. Il venait de s'installer quand un jeune homme au visage rougeau s'approcha de leur table. Il regarda Tony.
« Vous êtes la petite amie de Luc ?»«
Non, » répondit-elle. « Je le connais, mais je ne suis pas sa petite amie. »«
Dommage. Faudrait que quelqu'un fasse changer d'avis. »«
À quel propos ?» demanda Tony.
« Cette femme avec qui son père est fiancé. » Luc dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour que son père ne l'épouse pas.
Tony et Simon échangèrent un regard stupéfait. Le jeune homme regagna le comptoir d'un pas chancelant.
« On ferait bien d'aller retrouver Agatha, » suggéra Tony. « Elle doit être dans cette ferme.
Ah, »« Elle est assez grande pour se débrouiller toute seule, »
objecta Simon, agacé qu'on lui gâche ce moment passé avec Tony.
« Restez si ça vous chante, moi j'y vais. »«
Bon, d'accord, mais on va avoir l'air de deux imbéciles. »
« Agatha vous a dit où était la ferme ?»«
Je sais où c'est, » indiqua Tony.
Paul leur ouvrit la porte.
« Est-ce qu'Agatha est chez vous ?» demanda Tony.
« Elle m'a quitté, » répondit Paul d'un ton grave. « Entrez. »
Il les conduisit dans la cuisine et leur montra le mot soi-disant laissé par Agatha.
« Elle n'aurait jamais fait une chose pareille !» s'exclama Tony. « Saviez-vous que votre fils a menacé de la tuer ?»«
N'importe quoi.
Demandez-le lui !» dit Tony.
Paul alla au pied de l'escalier et hurla.
« Luc, descends tout de suite !»
Le fils entra dans la cuisine et resta planté là, tête baissée.
« Où est Agatha ?»
l'interrogea Tony.
« Je n'en sais rien, elle a laissé un mot. »«
C'est faux !»
rétorqua Simon.
« Je parie que c'est vous qui l'avez écrit. »«
Ça suffit !»
tonna Paul.
« Cessez de traiter mon fils de menteur et sortez d'ici !»«
Si on ne l'a pas retrouvé d'ici ce soir, » dit Tony, « je préviens la police. »
Dans la cour, Simon demanda.
« On fait quoi maintenant ?»«
On part à sa recherche, » dit Tony. « Regardez, il y a deux empreintes de pas différentes, une grande pointure et une petite. Elles mènent hors de la cour. »
Ils suivirent les traces laissées dans la boue. Parvenus en lisière d'un champ, ils jetèrent un coup d'œil alentour.
« Je ne crois pas qu'il veuille vraiment la tuer, » dit Tony.
« Sans doute peut-il juste lui faire peur. Il l'a peut-être enfermé quelque part, pas dans un des bâtiments situés trop près de la ferme, parce qu'alors on pourrait l'entendre crier. »
« Prenons le chemin qui coupe à travers champs, » proposa Simon.
Un peu plus loin, ils retombèrent sur les empreintes de pas sur le sol boueux.
« Continuons, » dit Tony. « Regardez, »
lança Simon. Un rayon détrempé perçait les nuages, baignant les champs d'une lueur dorée.
« On distingue une toiture là, au loin !»
Ils se pressèrent jusqu'à parvenir à une bâtisse délabrée. La porte était fermée avec un cadenas flambant neuf.
« Agatha !»
appela Tony.
« Je suis là !»
répondit une voix depuis l'étage. Ils reculèrent de quelques pas et fixèrent le toit. Il y avait un trou dans la toiture en ardoise par lequel Agatha avait passé la tête.
« N'essayez pas de sortir par là !» cria Tony. « Il se peut que le toit soit pourri. On va tenter d'enfoncer la porte !»
Simon ramassa un gros caillou et se mit à marteler le cadenas. Tony l'arrêta.
« Commencez par les charnières. Elles sont rouillées et très abîmées. »
Simon les frappa jusqu'à ce que le bois cède dans un craquement. Les deux jeunes gens soulevèrent la porte pour la retirer. Agatha descendait avec précaution d'une vieille malle en bois posée sur des caisses de bière. Ils se précipitèrent pour l'aider.
« Nom d'un salopard à sonnette !» grommela Agatha. « Je vais tuer ce monstre !»«
Qui ça ? Luc ?» demanda Tony, balayant d'une main l'étoile d'araignée sur le par-dessus d'Agatha.
« Oui, comment le savez-vous ? Il a avoué ?»«
Non, il a laissé un mot censé avoir été écrit par vous, » expliqua Simon, « dans lequel vous disiez ne plus vouloir de ce mariage. »
Agatha se laissa tomber sur une caisse à bière retournée. « Vous teniez vraiment à être femme d'agriculteur ?» fit Tony avec douceur. Il se remit à pleuvoir. Dans le bâtiment battu par les vents, la pluie s'engouffrait par le trou dans la toiture.
« Je me suis trompée, » dit Agatha d'une voix triste.
Elle retira lentement sa bague de fiançailles.
« Faut-il que j'appelle la police ?» demanda Tony.
« Non, laissez tomber. » Je préfère oublier toute cette lamentable affaire.
Tony l'aida à se relever et tous regagnèrent la ferme, tête baissée pour se protéger de la pluie.
Zut, il a caché ma voiture. Elle ne peut pas être bien loin. J'ai le double des clés. Allez jeter un coup d'œil derrière la maison. La grange ou Dieu sait où.
Simon ne tarda pas à appeler depuis la grange.
Elle est ici sur le côté du bâtiment, couverte de balles de foin.
C'est d'un pas assuré, Agatha entra dans la ferme. Assis à la table de la cuisine, Paul faisait ses comptes. Elle déposa la bague sur la table et d'un ton las lui raconta ce qui s'était passé.
« Il est sorti, » dit Paul. « Vous avez l'intention de porter plainte ?»«
Non. J'en ai assez de toute cette histoire. Il a caché ma voiture à côté de la grange. Allez aider Simon à la dégager. »
Paul se leva, l'air triste et abattu.
« Ça s'est déjà produit ?» voulut savoir Agatha.
« Une fois, » dit-il d'une voix piteuse. « Luc me tient pour responsable de la rupture avec sa mère. »«
Je ne vous ai jamais demandé ce qui a causé l'échec de votre mariage. »
Elle trouvait le travail trop dur.
« Le travail ?»
Agatha comprit soudain à quel point ses rêveries idylliques, Marie-Antoinette jouant les fermières au petit Trianon, étaient à côté de la plaque. Elle s'était imaginé que Paul avait plein d'employés, permanents ou à la journée.
« Pourquoi n'avoir embauché personne pour l'aider ? » demanda-t-elle.
« La ferme traversait une mauvaise passe, je n'en avais pas les moyens. »«
Alors c'est après mon argent que vous en aviez ?»«
Non, ma chérie, ne dites pas ça. »«
C'est fini, » dit Agatha. « Allez me chercher ma voiture et laissez-moi fiche le camp d'ici. »
Blottie dans son lit cette nuit-là, Agatha réalisa à sa grande surprise qu'elle n'était ni triste ni contrariée. Quand une histoire d'amour foirait, ça lui arrachait le cœur. Mais quand il ne s'agissait que de sexe, ne subsistait qu'une vague sensation de dégoût, comme quand on a mangé trop de chocolat. Quelque chose la tarabustait au sujet des meurtres de Winter Parva, bien qu'elle fût trop épuisée pour parvenir à mettre le doigt dessus. Le samedi suivant, elle alla rendre visite à Mrs. Blugsby pour lui raconter ce qui s'était passé.
Je crois que vous avez confondu agriculteur et riche propriétaire terrien, dit Mrs. Blugsby. La période qui suit un divorce est souvent mal vécue par les enfants. Nous avons connu un très désagréable incident lors d'un mariage. La dame se remariait et le couple avait opté pour une cérémonie traditionnelle. Au moment où l'on demande si quelqu'un a une raison de s'opposer au mariage, et si c'est le cas de parler ou de se taire à jamais, la fille de la dame, qui était aussi demoiselle d'honneur, s'est mise à hurler que sa mère était une putain. Elle a cité les noms de 5 des hommes avec lesquels sa mère aurait eu des aventures. Le fiancé a fait demi-tour et s'est enfui.
Et c'était vrai ou pas, l'histoire des amants, je veux dire?
Apparemment oui. Et la mariée portait une robe d'un blanc immaculé.
Je m'étonne que votre mari ait accepté de célébrer la noce.
Il n'était pas au courant, voyez-vous. Cette dame venait tout juste de s'installer au village. Êtes-vous triste de ne plus être fiancée ?
Non, mais je culpabilise un peu pour Paul.
même si je suis certaine qu'il m'aurait trouvée moins séduisante si j'avais été pauvre. Je n'aurais jamais dû accepter sa demande en mariage.
Avez-vous revu Charles ?
Demanda Mrs. Blakesby.
J'ai lu l'annonce de ses fiançailles.
Je ne l'ai pas vu, et il ne m'a pas donné de nouvelles.
Plus tard dans l'après-midi, elle reçut la visite de Bill Wong. Agatha lui fit un café et s'informa des progrès de l'enquête.
« Rien de nouveau ?» dit Bill. « Jed reste en détention provisoire. Il continue à s'accuser de tous les meurtres. Mrs. Crosswiz a été mise hors de cause. J'ai mauvaise conscience. Wilkes a fait pression sur lui pour qu'il avoue. Mais on n'a pas la moindre preuve. C'est ce qui m'inquiète. Parce que je suis sûre que le criminel est toujours en liberté. Je soupçonne John Hale. Il a besoin d'argent. Il tue Bert Temple. George Southern l'apprend et se fait lui aussi assassiner. Hale est désormais libre d'épouser la veuve.
C'est quand le mariage ?
Le mois prochain.
Il se peut que je lui rende une petite visite.
Enfin, c'est idiot. N'allez pas le trouver si vous le soupçonnez d'être l'assassin. Vous ne tenez pas à être la prochaine sur la liste.
J'irai le voir au collège.
Il se pourrait qu'il n'agisse pas sur le moment, mais qu'il tente de vous coincer plus tard. Ne faites pas ça.
Oh, je disais ça comme ça.
Alors comme ça, vous allez vous marier, vous aussi ?
Demanda Bill, changeant de sujet.
Plus maintenant. C'était une erreur. Et vous ?
Rien en vue, mais l'espoir fait vivre.
Agatha avait l'esprit agité ce soir-là. Le mystère des meurtres de Winter Parva la taraudait. Elle consulta le journal local. On jouait Les Pirates de Penzance au théâtre de Merchester. Devait-elle s'y rendre ? Pourquoi pas ? Peut-être parviendrait-elle à voir John Hale avant le spectacle. Elle plongea le bras dans le bac de recyclage, le bleu réservé aux déchets papier, et en sortit une vieille enveloppe d'un service de livraison. Elle en recolla le rabat, puis elle se changea. Elle enfila un pull et un pantalon noir et s'enfonça jusqu'aux yeux une casquette de baseball. Elle espérait ressembler à une employée de FedEx.
« Un envoi express pour John Hale !» annonça-t-elle au gardien à l'entrée des artistes.
« Donnez-le-moi »
dit-il.
« À remettre en main propre et contre signature. Allez-y monter, c'est la porte avec l'étoile !»
Agatha s'empressa de gravir les marches. Parvenue à la porte, elle entra sans frapper. John Hale était assis face au miroir, vêtu d'un costume de pirate. Il foudroya Agatha, ou du moins son reflet, du regard.
« Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Je veux savoir pourquoi vous épousez Gwen.
Fichez-moi le camp, ça ne vous regarde pas. »«
Si, d'une certaine manière.
Si vous êtes amoureux d'elle, pour quelle raison m'avez-vous fait la cour ?»«
Regardez-vous dans le miroir, très cher. Pour votre argent, évidemment. »
Et c'est aussi ce qui vous attire chez Gwen ?
Non, j'ai toujours été amoureux d'elle. Je ne pensais pas que ça puisse être réciproque, et puis j'ai découvert que si. Maintenant, tirez-vous.
Est-ce vous qui avez tué Bert Temple ?
John saisit un pot de démaquillant et le lui balança à la figure. Agatha se baissa pour l'esquiver et battit rapidement en retraite.
Eh bien, ça ne m'aura pas avancé à grand-chose. Songea-t-elle en s'engageant dans la rue menant à son cottage.
À la lumière des phares, elle constata, à son grand dam, que Paul et Luc étaient plantés devant sa porte. Elle s'apprêtait à faire demi-tour quand Paul l'aperçut. Il lui fit signe de la main. Agatha roula au pas, se gara et sortit de la voiture.
« Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle.
Luc désire vous présenter ses excuses.
« Allez, Luc. »«
Je suis vraiment désolé, » dit celui-ci. « Papa est effondré. Il vous aime pour de bon. Pardonnez-moi. »«
Ok, très bien, » grommela Agatha. « Maintenant, si vous voulez bien me laisser passer, j'aimerais... »«
Ne refusez pas de me parler, Agatha, » supplia Paul.
« Tu peux partir, Luc. »
Luc enfourcha sa moto et démarra dans un vrombissement.
« Entrez boire un verre, Paul, » proposa Agatha. « Mais ma décision est prise. »
Lorsqu'ils furent assis dans le salon d'Agatha, Paul demanda...
La nuit que nous avons passée ensemble ne signifie donc rien à vos yeux, Agatha ?
Elle tressaillit de honte.
Mieux vaut oublier ça. Je me suis trompée.
Les aventures d'une nuit, ce n'est pas mon truc. Et Luc est réellement désolé.
Moi non plus, ce n'est pas mon truc, répliqua Agatha. J'ai vraiment cru que ça pourrait marcher, mais nous n'avons pas grand-chose en commun. Je veux continuer à enquêter, mariée ou pas, et je ne vois pas à quoi je pourrais vous servir en tant qu'épouse.
« J'ai bien envie de vous poursuivre pour non-respect de promesses de mariage, » dit Paul, saisi de colère.
« Et je pourrais me défendre en invoquant le fait que j'ai été agressée par votre fils. »
Paul se leva
Il la fusilla du regard.
Espèce de salope!
Dites-vous que vous l'avez échappé belle? Rétorqua Agatha. Sur ce, il se dirigea à grands pas vers la porte qu'Agatha fut soulagée d'entendre claquer. Elle se sentait triste et salie. Après tout, elle l'avait laissé espérer et avait couché avec lui. Elle avait envie de pleurer, mais se leva pour se faire un sandwich. Elle n'avait pas envie de se faire chauffer quelque chose. Elle se tourna et se retourna dans son lit avant de sombrer dans un sommeil profond. Ses chats la réveillèrent en miaulant et en sautant sur sa couette. « Que se passe-t-il » dit-elle à voix haute. Les chats semblaient terrorisés. Elle huma l'air, une odeur d'essence. Elle enfila sa robe de chambre et dévala l'escalier. Quelqu'un était en train de verser de l'essence dans la fente de la boîte aux lettres. Elle se précipita à la cuisine et se saisit d'un gros extincteur. Elle recouvrit de mousse la flaque d'essence qui s'était formée en bas de la porte et s'écria « J'ai appelé la police !» Une boule de coton enflammée fut balancée par la fente de la boîte aux lettres. La flamme fut étouffée par la couche de mousse anti-feu. Tremblant de pied en cap et trop effrayée pour oser ouvrir la porte, Agatha appela la police. Elle avait bluffé en prétendant l'avoir déjà fait. Ses jambes se dérobaient sous elle. Elle se laissa tomber sur le sol de la cuisine et replia ses genoux sur sa poitrine. Autour d'elle, ses chats décrivaient des cercles. Enfin, le son béni d'une sirène de police lui parvint aux oreilles. D'abord arrivèrent les agents en uniforme, rapidement suivis par Bill Wong et Alice. « Vous soupçonnez quelqu'un ?» demanda Bill. Un agent avait déjà posé la question à Agatha, qui avait répondu par la négative. « Je suis passée voir John Hale au théâtre ?» précisa-t-elle. « Je vous l'avais déconseillé !» fit remarquer Bill. « Que s'est-il passé ?» Agatha lui raconta sa visite. « Nous allons le tenir à l'œil. C'est le seul suspect ? Vous n'avez vu personne d'autre ce soir ?»« Non ?» mentit Agatha. Il lui semblait avoir fait suffisamment de mal à Paul pour ne pas en plus orienter sur Luke les soupçons de la police. Ne restait qu'à espérer que nul au village ne les avait vus. James Lacey habitait le cottage voisin du sien, mais il n'était pas là en ce moment. L'interrogatoire se poursuivit pendant que la police scientifique s'activait à l'extérieur. Quand tous furent enfin partis, Agatha monta dans sa chambre, s'habilla et fit sa valise. Puis, elle mit les chats dans leur cage de transport et les chargea dans la voiture en même temps que son bagage. Elle déposa les chats chez Doris Simpson, sa femme de ménage, après l'avoir réveillée pour lui raconter ce qui venait de se passer. Elle roula ensuite jusqu'au George Hotel, à Merceuster, où elle prit une chambre. Dans la matinée, elle appela Paul et lui demanda si Luke avait passé toute la nuit sous leur toit. « Bien sûr, » répondit Paul d'un ton sec. « Pourquoi cette question ?» Agatha lui rapporta que quelqu'un avait tenté de mettre le feu à son cottage. « Mon fils est un bon garçon, » dit Paul. « Si vous nous envoyez la police, je ne vous le pardonnerai jamais. »«
Vous ne me pardonnerez jamais, de toute façon, » répliqua Agatha avec tristesse.
Et elle raccrocha.